Europe Matin. Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1, c'est votre petit matin du vendredi, youpi! Julien, vous avez retrouvé le chemin du studio, frais comme un gardon, remonté comme un coucou.
Moi, je suis très heureux de vous accompagner et de vous retrouver. On vous accompagne jusqu'à 6h30. Nous sommes le 15 avril et joyeux anniversaire à Josiane Balasco.
Tu sais que j'ai fait majorette pendant 2 ans, moi?
Non!
Si?
Mais, oui. Mais si t'as fait majorette, tu peux tout faire. C'est la meilleure école, majorette.
Ah bon?
Tu sais que la plupart des gens de la télévision ont commencé majorette.
Oh, je savais pas. Surtout que j'étais très très douée, moi. Je lançais le bâton à 3-4 mètres de haut. Toi, j'aurais insisté.
Mais tu l'aurais lancé à 5-6 mètres.
Eh ben, peut-être. Ça, j'avais pas pensé, mais peut-être.
Ouais, voilà, et peut-être. Comme à la télévision, la plupart des gens à la radio ont commencé majorette, hein, Julien.
C'est bien connu, moi aussi. Hein, Josiane Balasco qui fête ses 72 ans. On vient de l'entendre avec Thierry Lhermitte dans cette scène culte du film Nuit d'ivresse.
Dans l'actualité, ce 15 avril, Julien.
Le grand meeting de l'entre-deux-tours de Marine Le Pen hier soir à Avignon. La candidate du RN a lancé un appel aux abstentionnistes. On y revient dès le début du journal d'Alban Le Prince dans 2 minutes.
51e jour de guerre en Ukraine et plusieurs faits marquants ces dernières heures.
Avec tout d'abord cette perte majeure pour l'armée de Vladimir Poutine. Le croiseur Moskva, le navire amiral de la flotte de la mer Noire, a finalement coulé. C'était l'un des fleurons de la marine russe. Les Ukrainiens affirment l'avoir touché avec plusieurs missiles. Des Ukrainiens qui, parallèlement, sont sur le point de perdre Mariupol, ville assiégée, pilonnée, où plusieurs dizaines de milliers de civils auraient été tués, selon Kiev.
Si la cité portuaire venait à tomber, ce serait un tournant.
Oui, ce serait le premier succès de Poutine depuis le début du conflit. Succès dont il a tant besoin pour justifier face au peuple russe l'énorme coût financier et humain de cette terrible guerre. Et puis il y a ce mot qui revient dans la bouche des présidents Zelensky et Biden, celui de génocide, un terme que refuse d'employer pour l'heure Emmanuel Macron.
Eh bien, on abordera tous ces sujets à 6h10 avec notre invité, le géopolitologue et spécialiste de la Russie, Cyril Brett.
Et on reste dans le domaine guerrier, sur un ton beaucoup plus léger, avec une armure, un casque et un masque menaçant et surtout un katana à la main.
Oui, vous savez, ce long sabre dont la lame peut mesurer jusqu'à 80 cm, le musée Guimet à Paris consacre une exposition au personnage du samouraï, son histoire et l'imaginaire qui s'est construit jusqu'en Occident autour de ce guerrier japonais légendaire.
Qui est-il ce samouraï et pourquoi fascine-t-il autant?
Eh bien, nous serons à 6h moins le quart avec Sophie Macariou qui est la présidente du Musée National des Arts Asiatiques.
Et votre partition pour conclure?
The Police en 1981 qui change de son. Sur son 4e album Ghost in the Machine, The Police se lance dans de nouvelles expérimentations et orchestrations. Rendez-vous à 6h20.
La météo pour commencer cette matinale. Bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour. Le beau temps est là.
Ça y est, je vous l'avais promis, il est là et on va vraiment sur un week-end estival ensoleillé. Alors avant le grand soleil, ce matin soyez prudents si vous nous écoutez en Bretagne, en Normandie, sur les Hauts-de-France, le long des côtes de la Manche et tout le long du littoral atlantique, en particulier sur le Pays Basque et puis sur le sud de l'Auvergne aussi. On a beaucoup ce matin de nuages bas et de brouillard. Voilà, ça peut être compliqué. Surtout sur les réseaux secondaires. Dans les campagnes, voilà, il y a une visibilité qui est un peu moins bonne ce matin. Ça va très vite se dissiper dès le lever du jour. On a du Mistral qui se maintient dans la vallée du Rhône avec un petit peu de tramontane aussi, jusqu'à 50-60 km/h. On a des cumulus en montagne, mais c'est tout. Hein. Sinon, alors c'est pas un soleil radieux dans un ciel complètement dégagé. On a quelques passages nuageux, mais rien qui ne viendra gâcher cette impression de beau temps. Les températures, douceur exceptionnelle. 3 à 13 degrés ce matin. Cet après-midi, 18 à 22 sur la moitié nord. Jusqu'à 26 au bord de la Méditerranée, c'est 5 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison.
C'est l'été. Estival,
ouais, c'est des températures dignes de fin mai, début juin. Là.
Ah oui, effectivement. Merci beaucoup, Anissa Haddadi. On se découvre donc. Très bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h. Aller chercher les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, quoi qu'il en coûte. Objectif numéro 1 hier pour Emmanuel Macron au Havre et Marine Le Pen à Avignon. Reportage au pluriel dans ce journal. Notre-Dame en feu, sa flèche qui tombe et des Français hébétés, des larmes plein les yeux, on s'en souvient tous. 3 ans plus tard, dans l'Oise, on commence tout juste à extraire des pierres qui serviront à sa reconstruction. Et puis, les prix du fioul explosent, le gouvernement sort le chéquier. Objectif, inciter les Français à remplacer leurs vieilles chaudières. On vous explique tout dans un instant.
Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de ce vendredi vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. Premier meeting d'entre-deux-tours pour Marine Le Pen devant 4000 sympathisants hier soir, direction Avignon, ville dans laquelle Jean-Luc Mélenchon a raflé plus de 36% des voix. Au premier tour, la candidate du Rassemblement National lance un grand appel aux abstentionnistes, aux patriotes de droite comme de gauche pour stopper Emmanuel Macron. Le reportage de Victor Chabert.
Une arrivée par le fond de la salle, Marine Le Pen monte sur scène et martèle les différences entre deux visions de la France qui s'opposent selon elle. La sienne, celle d'un bloc populaire, contre celle d'Emmanuel Macron, un bloc élitaire, avant d'appeler au rassemblement contre le président sortant.
Si les Français ont à faire barrage, c'est au retour d'Emmanuel Macron. Faire barrage à l'effondrement du pouvoir d'achat des Français. Faire barrage à la retraite à 64 ou 65 ans, on ne sait plus.
Marine Le Pen déroule ensuite son programme insistant sur l'international et le pouvoir d'achat, un projet qui fonctionne sur deux jambes, le quotidien et le régalien, puis répond aux attaques de ses adversaires.
Certains vont même jusqu'à prétendre que je pourrais retirer des droits aux Français. Je ne retirerai aucun droit à aucun Français.
En conclusion, la candidate assure que jamais la victoire n'a été aussi proche. Avec ce discours, Marine Le Pen veut asseoir sa stature présidentielle, rassurer les Français sur la crédibilité de son projet et sa capacité à gouverner. Dans le ton, la finaliste montre également que jusqu'au soir du second tour, elle rendra coup pour coup à Emmanuel Macron.
Victor Chabert.
La bataille entre les deux candidats qui se joue aussi sur le terrain de l'écologie.
Oui, hein, et c'est au Havre qu'Emmanuel Macron a choisi de faire escale hier, ville de son ancien Premier ministre Édouard Philippe.
Le Havre. Où là aussi, comme à Avignon, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour avec plus de 30% des suffrages.
Alors pour draguer les insoumis mais aussi les écologistes, le président candidat promet un programme plus vert. Il en faudra plus pour les convaincre. Reportage Arthur Delaborde.
Sur ce terrain de l'écologie, Emmanuel Macron veut avant tout marquer sa différence avec Marine Le Pen en multipliant les attaques contre sa rivale qu'il qualifie de climato-sceptique.
Qui est écologiste et peut voter pour Madame Le Pen ? Il faut me le présenter. Parce que c'est le seul projet qui assume de casser tous les cadres et de ne pas respecter la part écologique et les engagements de la France.
Cette jeune femme venue interpeller le président candidat, elle attend du concret là où les mesures susceptibles de la convaincre.
Vous avez dit que Jadot avait des bonnes idées en économie circulaire. Vous pensez à quoi ? Qu'est-ce que vous comptez reprendre à votre compte ?
Le temps viendra où je vous le dirai.
Vous faites beaucoup de suspense.
Pas d'annonce donc dans l'immédiat, mais de nouvelles promesses d'ouverture.
Je ne vais pas demain proposer le projet de Jean-Luc Mélenchon ou proposer le projet d'Yannick Jadot, c'est évident. Par contre, je trouve que c'est une bonne respiration démocratique si, en cohérence avec le projet que je porte, si je dis je peux ajouter telle ou telle chose, je le ferai.
Un projet qu'Emmanuel Macron n'a en tout cas pas l'intention de totalement chambouler.
Arthur Delaborde. Et après Nicolas Sarkozy, au tour de François Hollande d'apporter son soutien à Emmanuel Macron pour l'ancien président hier soir sur TF1. Si Marine Le Pen arrivait à l'Élysée, il y aurait trois remises en cause fondamentales. Nos valeurs, l'appartenance à l'Union européenne et notre système d'alliance.
5 heures passées de 4 minutes sur Europe. On en vient à la guerre en Ukraine. Le croiseur russe Moskva, endommagé en mer Noire, a coulé.
Oui, annonce dans la soirée du ministère russe de la Défense. C'est un coup dur pour la Russie, dit le Pentagone. Mais ces revers militaires en Ukraine pourraient encourager Vladimir Poutine à recourir à l'arme nucléaire, tactique ou de faible puissance. C'est ce qu'estime le chef de la CIA. C'est pourtant dans ce contexte que le Quai d'Orsay annonce que l'ambassade de France en Ukraine, transférée à Lviv, à l'ouest du pays début mars, va retourner à Kiev.
Cette image est restée gravée dans nos mémoires, celle de la chute de la flèche de Notre-Dame de Paris en feu sous les yeux hébétés de milliers de passants.
On se rappelle tous de ce terrible incendie. C'était il y a 3 ans, jour pour jour. Déjà, depuis, l'intérieur du monument a été nettoyé, dépoussiéré. Pas à pas, la cathédrale se reconstruit. Il faut notamment refaire la voûte. Pour ça, la carrière de la Croix Huillard à Bonneuil, en Valois, dans l'Oise, apporte sa pierre calcaire à l'édifice. Océane Théhari est allée pour Europe 1.
C'est un paysage lunaire, une carrière de pierre calcaire creusée au milieu des champs humides. Une lame de 3 mètres gronde, découpe des blocs de pierre de 1 à 3 mètres, le tout commandé à distance par Benoît Orchol.
C'est comme une grosse tronçonneuse si on veut, comme pour le bois, mais spécialisée dans la pierre. Nous on recoupe donc perpendiculairement pour délimiter les blocs.
640 mètres cubes de pierre pour l'histoire, une pierre assez résistante pour former les nouvelles voûtes de Notre-Dame.
On n'en fait pas 50 dans une vie, des chantiers comme ça. Je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Bien entendu.
Et quelques kilomètres plus loin, la pierre est redécoupée et nettoyée à l'usine avec le même soin par le petit frère Orchol.
C'est un chantier qui, je pense, qui marque une vie. C'est un chantier exceptionnel. C'est un métier qu'on partage du coup depuis mon grand-père avec mon père. Pouvoir travailler ici avec eux maintenant, c'est aussi un plaisir et c'est une vraie joie.
Les blocs les plus réguliers iront ensuite jusqu'à Paris et seront hissés sur des échafaudages à plus de 100 mètres de haut pour que s'élèvent à nouveau les voûtes de Notre-Dame.
Océane Théard.
Vous l'avez sûrement remarqué, si vous possédez une maison chauffée au fioul ou au gaz, les prix explosent.
Si bien qu'à partir d'aujourd'hui, le gouvernement sort le chèque qui est le montant des aides accordées par le dispositif MaPrimeRénov' est augmenté de 1000 euros pour remplacer votre vieille chaudière par un système plus vertueux, comme une pompe à chaleur par exemple. Maud Descamps, comment on fait pour y avoir droit ?
Eh bien, c'est très simple. Hein. Cette aide supplémentaire de 1000 euros est accordée dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov'. Il suffit donc de déposer une demande sur le site maprimerénov.gouv.fr. Le dispositif est accessible à tous les propriétaires occupants ou bailleurs et dont les revenus sont inférieurs à 80 000 euros par an. Et en fonction de votre niveau de revenu, vous pouvez bénéficier au total d'une aide allant jusqu'à 11 000 euros pour remplacer donc votre chaudière au fioul par une chaudière au bois ou encore une pompe à chaleur. Depuis le début de la crise en Ukraine qui a fait flamber les prix des carburants, les demandes de remplacement de chaudière se multiplient. C'est ce que constate Audrey Zermati de l'entreprise de travaux énergétiques EFI.
On a eu une forte croissance des demandes, spécifiquement pour la pompe à chaleur et la chaudière biomasse de 75%. Le fait de passer à la pompe à chaleur ou au bois, vous avez un peu plus d'une division par deux de votre facture.
Cette aide supplémentaire de 1000 euros sera donc accordée au dossier déposé à partir d'aujourd'hui et jusqu'au 31 décembre prochain.
Merci Maud Descamps pour ces précisions et j'ajoute que le dispositif ne finance plus les chaudières au gaz.
Alors le carburant aussi coûte cher, ça aussi tout le monde l'a remarqué, mais les Français décident tout de même de partir en vacances.
Elle continue pour la zone B, elle commence pour la zone A. C'est aussi le week-end de Pâques, alors il y aura du monde sur la route aujourd'hui. C'est rouge dans le sens des départs sur tout le pays. Les principales difficultés sont attendues cet après-midi sur la 7, la 10, la 11 et la 13.
Un mot de foot pour terminer ce journal. Lyon humilié à domicile.
Oui, les Gones se sont fait sortir par les Anglais de West Ham en quart retour de la Ligue Europa hier soir 3-0. Les Marseillais se sont en revanche imposés en Grèce face au PAOK Salonique en quart retour de la Ligue Europa Conférence. Résultat 1-0 grâce à un but de Dimitri Payet. L'OM file en demi-finale et puis à suivre ce soir le début de la 32e journée de Ligue 1. Rennes reçoit Monaco, coup d'envoi 21h.
Merci pour toutes ces informations Alban Le Prince et à tout à l'heure.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses. Le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin, il y aura des courses en nocturne à Vincennes et mon pari gagnant sera le 208, Grâce du Dijon. Titulaire de 5 victoires lors de ses 7 dernières courses et gagnante de loin en dernier lieu à Vincennes, sur le même parcours que celui qu'elle empruntera ce soir, elle se retrouve une nouvelle fois dans les meilleures dispositions possibles pour ajouter à son palmarès un nouveau succès. Alors notez bien pour Vincennes, réunion 1 dans la deuxième course, le numéro 8, Grâce du Dijon.
Grâce du Dijon, le numéro 8, c'est noté. Merci beaucoup Thierry Léger. On vous retrouve dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. A tout de suite.
Omblin Roche et Julien Pierce sur Europe 1.
C'est le pressing à 5h10 avec nous. Martin Lange, bonjour.
Bonjour Omblin, bonjour Julien, bonjour à tous.
Bonjour Martin, le pressing des éclopés j'ai envie de dire, hein, puisque Martin a un bras en écharpe et que moi j'ai la voix toujours dans les chaussettes. On commence avec vos journaux et cette question à la une du Parisien aujourd'hui en France. Marine Le Pen, trop seule pour gouverner, interroge le quotidien. Si elle est élue, la candidate du RN assure être en mesure de former un gouvernement d'union nationale, mais aucune personnalité d'envergure n'est annoncée. Autre question ce matin, 22%, et qu'est-ce qu'on fait maintenant, demande en une Libération, avec pour photo un portrait de Jean-Luc Mélenchon. Fort de son score au premier tour, le leader de la France insoumise tient le sort de la gauche entre ses mains en vue des législatives. Le PCF, Europe Écologie Les Verts et le PS se disent prêts à négocier. Et puis on termine avec les échos. Twitter, le nouveau pari à 43 milliards d'Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, a en effet lancé une OPA hostile pour racheter la totalité du réseau social qu'il veut régénérer selon ses mots. Voilà pour les unes. Omblin, quel article vous a tapé dans l'œil ce matin ?
Nous sommes le 15 avril, il y a 110 ans, jour pour jour, le Titanic sombrait dans les eaux sombres de l'Atlantique Nord.
Il n'y a pas que les eaux qui sont sombres.
Petit bot, Titanic.
Elle est déglinguée, ma flûte. Trois heures seulement et ce paquebot qu'on disait insubmersible s'est enfoncé lors de son voyage inaugural dans cet océan glacial emportant 1500 passagers avec lui. C'est vrai que ça fait bizarre de
on
dire.
On ne vous écoute plus du tout
une
en
catastrophe.
Fait.
Bon, c'est une catastrophe quand même qui est devenue un mythe qui continue de fasciner les passionnés et de questionner les experts. Comment une telle tragédie a pu avoir lieu? Le Titanic allait trop vite, pas assez de canots de sauvetage, l'équipage qui a ignoré la présence d'icebergs dans les parages.
Oui, qu'est-ce que vous voyez ?
Un iceberg droit devant ! Merci !
Voilà, il était très très gros hein, cet iceberg. 30 mètres, comment a-t-il pu échapper à l'œil averti des vigies ? C'est cette question qui nous hante depuis 110 ans. Eh bien, le Parisien.fr parle d'une enquête publiée par le service de documentation de Météo France cette semaine. Un mirage aurait pu tromper la vigilance des marins. Tout le monde le sait, on a tous vu le film Titanic 25 fois, une fois par an. Non, pas vous. Non,
si. Ouais, si,
une fois par an, minimum.
Bon, pour vous faire plaisir. Ouais.
Tout le monde le sait.
Julien, on sait tous que vous êtes fan.
La nuit était claire, un beau ciel étoilé, la mer était calme, des conditions météo clémentes, sauf si on doit naviguer dans un champ d'iceberg. Météo France explique que faute de vent et de grandes vagues, il n'y avait pas d'écume aux abords des gros blocs de glace, ce qui aurait pu faciliter leur détection. Pas de brouillard non plus. Enfin, pas de brouillard. Certains témoignages de passagers évoquaient une brume, un phénomène surnommé mer qui fume. Et Météo France avance une autre hypothèse, celle d'un mirage supérieur, un phénomène optique engendré par les différences de température entre les différentes couches de l'atmosphère, les vents chauds qui viennent du sud, le vent froid qui vient du nord. Ça se manifeste par une bande brumeuse masquant l'horizon et donc les éventuels obstacles. C'est comme si l'horizon est plus haut qu'il n'est en réalité. Et ce phénomène s'observe justement dans les régions arctiques. Ça donne l'impression qu'un bateau flotte au-dessus de l'horizon. Ah, ce scénario du mirage supérieur a déjà été abordé dans une étude publiée en 2019 par la Royal Meteorological Society. Alors, entre un mirage supérieur et une mer qui fume, les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord. Tout ça reste néanmoins bien nébuleux.
Nébuleux, je crois que c'est le mot qui caractérise cette chronique.
Le Titanic, un mirage à l'origine du naufrage, c'est sur le site du Parisien.
C'est noté, merci beaucoup. Je précise que l'article est sans bande-son. Hein. Donc,
allez-y.
Martin, c'est à vous.
Je vous emmène dans le Pas-de-Calais ce matin, à L'Échelle, exactement, petit village de 48 habitants, où comme partout en France, on a voté dimanche dernier pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec une particularité tout de même, hein, les 41 électeurs n'avaient pas rendez-vous à la mairie pour exprimer leur voix, mais au domicile du maire, ce qui est parfaitement contraire au code électoral. Oui. Une magistrate déléguée du Conseil constitutionnel s'en est aperçue. Hein. Elle a aussi noté qu'il n'y avait aucun isoloir dans le bureau prévu pour le vote. Bref, après son rapport, les sages ont décidé d'annuler purement et simplement le scrutin et par là même l'ensemble des 31 suffrages exprimés dans la commune. De quoi déclencher le courroux du maire, Gabriel Tranin. On est un tout petit village avec une mairie très vétuste, explique-t-il. S'il a choisi son bureau, c'est uniquement parce que c'était plus pratique pour réunir ses administrés. Il assure par ailleurs les avoir tous prévenus du changement de lieu par courrier plusieurs jours avant le scrutin.
Un cas qui, selon l'édile, témoigne de l'abandon des petites communes.
Oui, Gabriel Tranin profite de la tribune offerte par La Voix du Nord pour pousser un énorme coup de gueule. On ne s'occupe jamais de nos petites communes, il faut se débrouiller avec tout. Exemple de ce système D, c'est le maire lui-même qui tond la pelouse des espaces verts municipaux. D'un seul coup, on vient nous contrôler, on nous cherche des poux, on ne vit pas sur la même planète, conclut Gabriel Tranin. Il avait rendez-vous hier après-midi à la préfecture du Pas-de-Calais pour défendre sa cause. Alors, il est peu probable que le Conseil constitutionnel revienne sur sa décision. Marine Le Pen, qui était arrivée en tête dimanche, ne devrait pas récupérer ses 16 voix, mais il espère au moins alerter sur ses difficultés. Difficultés qu'il partage avec des milliers de maires à travers le pays. D'ailleurs, dimanche prochain, pour le second tour, il envisageait de louer un préfabriqué de chantier pour organiser le vote. Visiblement, aux dernières nouvelles, il a été entendu puisqu'il pourrait organiser le deuxième tour dans son bureau, à condition cette fois de faire une demande officielle en préfecture. Dimanche, à L'Échelle, on votait chez le maire. C'est à retrouver dans La Voix du Nord.
Merci Martin, c'est étonnant d'aller voter chez son maire directement. J'ai choisi pour ma part un article passionnant à lire dans le Figaro, un article sur un bienfait insoupçonné d'un incontournable du matin, non pas la douche, ni le bol de Chocapic Martin, mais le café, celui qu'on boit...
Ni l'un ni l'autre pour moi le matin.
Non, bah, d'accord, pas de douche non plus, ok. Celui qu'on boit le matin pour se réveiller en peignoir ou en vitesse avant d'aller au travail. Et bien ce même café est aussi devenu un peu par hasard un médicament. Tout a commencé il y a quelques années avec un père et sa fille, tous deux atteints d'une maladie génétique rare et invalidante, provoquant des mouvements involontaires, la dyskinésie liée au gène ADCY5. Un mal très très rare, puisqu'il touche moins d'une cinquantaine de patients en France et environ un millier sur l'ensemble de la planète. C'est à la Pitié-Salpêtrière à Paris que ce père et sa fille sont suivis par le professeur Emmanuel Flamand-Rose, neurologue et chercheur à l'INSERM. Et c'est lors d'une consultation de routine qu'ils lui disent que ce café fait taire leurs symptômes. Le père, notamment, ne va jamais au lit sans en avoir bu une tasse, ce qui lui permet d'avoir une nuit sereine, sans éveil, liée à des mouvements intempestifs. Alors intrigué, le professeur et son équipe en parlent à d'autres patients, dont un enfant de 11 ans, très handicapé dans sa vie quotidienne. Ils lui font boire une tasse de café et au bout de 45 minutes, le résultat est spectaculaire. Les gestes involontaires ont disparu comme par magie et ce pendant 7 heures, et ce juste avec un peu de café. Jusqu'au jour où les mouvements parasites reviennent de plus belle. Je me suis arraché les cheveux pour comprendre ce qui se passait, raconte le professeur. Et ce sont finalement les parents de l'enfant qui ont résolu l'énigme. Ils se sont rendus compte qu'ils avaient acheté par erreur des dosettes de décaféiné. Les gestes indésirables ont à nouveau disparu une fois le retour à la boisson habituelle. Les parents, en fait, venaient de réaliser, sans le savoir, un essai clinique dans les règles de l'art, en double aveugle, comme on dit, fortuit et en vie réelle. Alors, fort de cette expérience probante, le professeur et son équipe sèment la bonne nouvelle de publication en congrès. La piste du café est en effet particulièrement séduisante, d'autant que dans la maigre littérature disponible au sujet de cette maladie très rare, les seuls traitements ayant possiblement une efficacité sont les benzodiazépines, mais avec des résultats anecdotiques, et la stimulation cérébrale profonde, une procédure très invasive qui implique l'implantation d'électrodes dans le cerveau, avec là aussi des effets généralement inférieurs à ceux du café. Restait à mener une vraie étude scientifique sur l'efficacité de la caféine. Elle vient d'être publiée il y a quelques jours dans la revue Movement Disorders. Les scientifiques ont interrogé 30 patients de 4 à 76 ans ayant déjà testé le café. Résultat, 26 d'entre eux, 26 sur 30, c'est pas mal, ont rapporté une diminution d'au moins 40% des mouvements involontaires.
Alors que fait concrètement le café sur l'organisme de ces malades?
Alors, la piste principale des chercheurs, c'est complexe, je vais essayer de le résumer le plus simplement possible, c'est que la caféine vient de se fixer sur les récepteurs chargés de diminuer l'activité d'une enzyme dans le cerveau, une enzyme qui s'exprime trop fortement chez ces malades. La caféine permettrait de l'inhiber et ainsi rétablir le fonctionnement normal du cerveau. Du café pour soigner un gène défectueux, c'est-à-dire donc dans le Figaro.
Merci beaucoup Julien, merci Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour les sports.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, les principaux titres avec Alban Le Prince.
C'était il y a 3 ans, jour pour jour, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. À cette occasion, Emmanuel Macron se rend cet après-midi sur le chantier. Il fera notamment un point sur l'avancée des travaux. À 9 jours du second tour, un nouveau soutien pour le président candidat, celui de François Hollande. L'ex-chef d'État l'a annoncé hier soir aux 20h de TF1. Pour lui, l'élection de Marine Le Pen serait synonyme de 3 remises en cause fondamentales. Nos valeurs, l'appartenance à l'Union européenne et notre système d'alliance. L'école polytechnique dans le viseur, le parquet d'Evry ouvre une enquête préliminaire pour viol, agression sexuelle et tentative d'agression sexuelle et de viol. Dans une enquête interne menée par l'établissement, près d'une étudiante sur 4 dit avoir été agressée sexuellement depuis le début de sa scolarité. Et puis la guerre en Ukraine, Moscou annonce que son navire amiral, le croiseur Moskva, a coulé. C'est un coup dur pour l'armée russe, estiment les États-Unis.
C'est à présent la chronique de celles et ceux qui font bouger les lignes. Les initiatives en France nous emmènent ce matin en Occitanie.
Bonjour François Roque.
Bonjour, bonjour.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le directeur de la mégisserie de la Molière, c'est à Grolet dans le Tarn. Et si on vous appelle ce matin, c'est parce que vous venez de lancer une collection de baskets fabriquées avec un cuir, on va dire un peu particulier. Expliquez-nous.
Tout à fait. Alors, c'est du cuir de thon. C'est-à-dire, nous sommes une entreprise artisanale basée à Groyer, dans le Tarn. Donc, ça a été créé par mon arrière-grand-père, donc ça fait 4 générations, en 1930. Et nous avons développé un cuir, un tannage de cuir de thon par un concours de circonstances, avec la rencontre de M. Barba, un industriel d'agroalimentaire, qui, lui, dans un souci de démarche RSE, avait des pots de poisson, des pots de thon, puisqu'il est importateur et découpeur de thon et d'espadon. Et de ce fait, il avait des pots et il nous a demandé de les tanner. Et au bout de 2-3 ans, on a réussi à mettre ce procédé en place. Et nous avons monté une entité commune qui s'appelle Maison Pantouna. Et nous allons commercialiser, courant le mois de mai-juin, notre première ligne de sneakers en peau de thon.
Et cette peau de thon, ça donne un cuir de bonne qualité ?
Alors, oui. Pourquoi ? Parce que tout ce qu'a fait la nature, l'homme n'a jamais fait mieux. Donc, si vous voulez, la peau, c'est la peau de poisson ou notre peau à nous, c'est des millions d'années d'évolution. Donc, c'est, la peau nous protège, mais ça protège aussi tous les animaux, que ce soit aussi bien le mouton que la vache que le thon. Et la propriété physique de ce cuir, c'est que c'est un maillage vraiment chaotique et ça lui donne des résistances qui sont relativement exceptionnelles. C'est-à-dire à la déchirure, le fait que si vous prenez par exemple un pull, ça va être tissé dans un sens, alors que le cuir en règle générale, c'est un maillage chaotique, donc il y en a aussi bien horizontalement qu'obliquement que verticalement, ce qui donne une résistance à cette matière, assez époustouflant.
Ouais, donc les baskets que vous apprêtez à commercialiser seront des baskets durables qui résisteront bien dans le temps. On les trouvera où ces baskets Pantuna ?
Ça va être sur eShop, essentiellement sur Internet. Alors il y aura des mix matières. Si vous voulez, on n'a pas voulu faire tout en cuir de thon ou tout en cuir tortue de pièce. Le but, c'est de pouvoir présenter toutes sortes. Donc il y aura les trois cuirs, il y aura de l'ovin avec un tannage végétal, il y aura du bovin avec un tannage issu de tannerie certifiée LWG, c'est un label éco-responsable. Et le cuir de thon, on l'a travaillé avec un tannage biodégradable, c'est-à-dire on a voulu aller encore plus loin dans la démarche RSE, c'est-à-dire que tout le cuir, toutes les chutes qui vont tomber dans toute la production de ce cuir de thon peuvent être mises au compost et au bout de 22 jours être mises en engrais. Et ça n'intéresse rien les qualités de ce cuir.
Et c'est facile à travailler la peau de thon ?
Alors c'est pas facile. C'est pas facile pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué. Déjà ça c'est le et puis le thon est c'est pas un poisson pas plat comme la sole, la raie ou même j'allais dire le saumon qui est légèrement bombé. Le thon c'est carrément un cylindre. Donc on le travaille en quartier. Si vous voulez, une peau de veau, on va la travailler sur toute la peau, tandis que là, on coupe des longes, si vous voulez, et on travaille la peau à longe, de manière d'avoir un cuir le plus plat. Et ouais. L'anecdote de ce cuir de thon que tout le monde connaît ou tout le monde mange, du thon, c'est que c'est un cuir qui, pour moi, n'avait pas d'écailles. Et une fois travaillé, on s'aperçoit qu'on a des écailles qui sont à peu près grosses comme une pièce d'un euro. Et le fait de l'implantation de ces écailles est tellement verticale qu'on ne le retrouve pas. C'est assez bluffant.
C'est une première mondiale des chaussures en cuir de thon, à votre connaissance ?
Alors, à ma connaissance, oui. Pourquoi ? Parce que, un, il faut avoir l'approvisionnement en cuir. Donc, M. Barbare, qui peut avoir énormément de peau, ses peaux, elles étaient rejetées à la mer ou elles étaient détruites ou incinérées. Donc, son idée, lui, c'était forcément de revaloriser l'article et puis et d'aller un peu plus loin dans la démarche. Donc, on est allé carrément jusqu'au bout. On va sûrement faire une gamme de maroquinerie qui va suivre pour perdurer l'histoire, parce que l'histoire est belle, avec d'autres collections de chaussures. Mais oui, je vous confirme que c'est, vu la complexité du tannage et des machines qu'il faut mettre en place, c'est une première mondiale, oui. Et c'est fait en Occitanie. Donc, M. Barba est là, du côté de Béziers. Nous, on est dans le Tarn, on est à 150 km. Et donc, l'idée, c'est de développer une gamme de maroquinerie sur la ville de Groyer, parce qu'on a toute la filière cuir, aussi bien des machines, des fabricants de produits chimiques, des maroquiniers et des tanneurs.
Ça paraît incroyable que personne n'y ait pensé avant, parce que je crois qu'en Espagne, on appelle le thon le poisson cuir, c'est ça ?
C'est ça. D'où son idée, quand lui qui était dans le milieu on va dire, de la pêche, il a dit « mais on appelle ça du poisson cuir et personne n'en a fait, on appelle ça du poisson cuir ». Sauf qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit intéressé en disant « mais oui, on va essayer de le faire ». Donc si vous voulez, c'est souvent des choses qui sont… c'est pas facile à faire, hein. C'est pas forcément la même recette qu'on va dire qu'on tanne une peau de veau ou de mouton. C'est pas du tout la même recette. Après, c'est du cuir qui est... la pêche, c'est une pêche responsable qu'ils effectuent. Donc l'idée, c'était aussi d'aller sur quelque chose de responsable, d'écologique et de respectueux de l'environnement et des ressources.
Merci beaucoup, François Roch, de nous avoir fait découvrir Pantuna, donc la seule marque de chaussures au monde, à notre connaissance, confectionnée avec du cuir de thon et bientôt de la maroquinerie, on l'a bien entendu. Je vous souhaite une excellente journée.
Je vous remercie, Paiman. Bonne journée. Au revoir.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Europe 1. Suivre le journal de 5h30 de Christophe Lamar, où l'on va aborder la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui à Notre-Dame de Paris à l'occasion du 3e anniversaire de son incendie. Et puis toujours dans la capitale, le musée Guimet nous invite à plonger dans l'imaginaire du samouraï.
Et également dans son histoire, Julien. Ce guerrier japonais super-héros, de nombreuses légendes suscitent crainte et admiration. Il fait rêver jusqu'en Occident. Hollywood s'est même emparé de la figure glorieuse du samouraï, dont les valeurs sont le courage, l'honneur, la loyauté. Rendez-vous dans un quart d'heure avec Sophie Macariou, la présidente du Musée National des Arts Asiatiques.
Et puis de la musique ensuite avec Stéphanie Loire.
Ben L'Oncle Sol est de retour avec Red Mango, un album de reprise de classique pop et soul à la sauce jamaïcaine.
Alissa Dadi pour la météo. Avant, météo, on va dire, jamaïcaine sur l'essentiel du pays.
On peut écouter ça aujourd'hui, hein, sur le soleil. Hein, ouais. C'est pas mal, c'est une bonne idée. Ouais.
Il va y avoir pas mal. Il y a des brouillards en tout cas ce matin.
Oui, il y a pas mal de brouillards. Cette belle journée, effectivement, elle va commencer avec des nuages bas. Alors prudence le long des côtes de la Manche, dans le Pays Basque, en Auvergne, Rhône-Alpes, surtout en campagne. Hein. C'est vrai que c'est dans les plaines et les vallées que nous allons avoir le plus de nuages bas ce matin. Les conditions de circulation peuvent être difficiles sur les réseaux secondaires. Donc prudence, ce matin, on part un petit peu plus tôt. À la cool, on prend les lunettes de soleil, on les utilisera un petit peu plus tard. Alors partout ailleurs, effectivement, là où il n'y aura pas de brouillard, le soleil s'impose très rapidement dès les premières heures. Dans l'après-midi, le temps est calme, sec, agréable, avec de très légers passages nuageux sur la moitié nord. Et puis dans la vallée du Rhône, on a toujours du Mistral qui souffle jusqu'à 60 km/h, mais c'est une très belle journée qui vous attend. 5 degrés à Montluçon, il fait déjà très doux. Hein. 7 à Rennes, 9 à Clermont-Ferrand, 10 degrés à Paris ce matin, 13 à Nice, 16 à Perpignan. Et alors cet après-midi, on est 5 à 9 degrés au-dessus des moyennes de saison, avec 16 degrés à Saint-Brieuc, 18 à Lille, 22 à Paris et Strasbourg, 24 à Marseille et 27 à Nîmes, qui sera la ville la plus chaude.
Tous en t-shirt. Mmh. Merci beaucoup Anissa Dadi. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Tout le monde rassemble ses forces pour un assaut qui ne sera sans doute pas loin d'être l'assaut final pour déterminer le résultat de la guerre en tant que telle.
La bataille finale sur le point de s'engager en Ukraine, vous venez de l'entendre avec ce spécialiste. Le sort de la guerre se joue dans le Donbass. Moscou paraît pour l'assaut face à des Ukrainiens retranchés. Emmanuel Macron à Notre-Dame de Paris, visite de chantier pour le président candidat. La cathédrale renaît peu à peu de ses cendres, 3 ans après l'incendie qui l'a en partie ravagée. Et puis la polémique soulevée par le pape François, le traditionnel le chemin de croix de Pâques indigne les Ukrainiens. Explication dans ce journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Le journal qui vous est présenté par Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. La Russie maintient la pression sur l'Ukraine. Plusieurs explosions signalées cette nuit à Kiev et Kherson. On ne sait pas si ces bombardements sont une forme de représailles après la perte du navire amiral de la flotte russe en mer Noire.
C'est dans cette région du Donbass que les choses pourraient s'accélérer.
Et Moscou a amassé une quantité impressionnante de troupes et de chars. Objectif, encercler ce qui reste de l'armée ukrainienne. Joseph Enrotin est rédacteur en chef du magazine Défense et Sécurité Nationale. Il est aussi chargé de recherche à l'Institut Stratégique de Paris. Et vous allez l'entendre, c'est peut-être l'une des plus grandes batailles depuis la Seconde Guerre mondiale qui est sur le point de s'engager.
C'est une veillée d'armes, c'est-à-dire que tout le monde se prépare à la bataille. Ça pourrait être la plus grosse bataille que l'Europe a connue depuis celle de Koursk en 1943, lorsque des milliers de chars s'étaient affrontés. Alors ici, il n'y aura pas nécessairement des milliers de chars, mais les volumes de force seront absolument considérables. Les Russes disposent sur place d'une quarantaine à une cinquantaine de groupes bataillonnaires. En face de ces groupes bataillonnaires, qui ont déjà subi évidemment les pertes liées aux premières semaines de la guerre, une dizaine de brigades ukrainiennes. Le tout dans un contexte où le terrain est loin d'être plat. C'est un terrain qui est relativement vallonné, qui favorise donc la défensive. Les Ukrainiens, ce qui se joue finalement, c'est la possibilité de la destruction de l'armée russe, rien moins. Tout le monde rassemble ses forces pour un assaut qui ne sera sans doute pas loin d'être l'assaut final pour déterminer le résultat de la guerre en tant que tel.
Joseph Enrotin, joint par Marion Gauthier. Autre point stratégique, Mariupol, ville tampon entre la Crimée et le Donbass. La résistance ukrainienne s'amenuise, mais cette cité portuaire tient toujours au prix de lourdes pertes. alerte. Au moins 20 000 morts selon le gouvernement ukrainien.
C'est une annonce qui fait scandale au Royaume-Uni. Le Premier ministre Boris Johnson veut envoyer les migrants illégaux au Rwanda.
L'accord avec Kigali est déjà signé. De quoi s'agit-il ? Tout simplement d'envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda. Mesure applicable à toute personne entrée illégalement sur le territoire britannique. Notre compassion est peut-être infinie, mais notre capacité à aider les gens ne l'est pas. Ainsi se justifie Boris Johnson. Un projet qui provoque un véritable tollé, Johan Tritz.
Oui, Boris Johnson qui était attendu sur cette question migratoire, il en avait fait l'un des grands sujets de campagne du Brexit. Le Premier ministre britannique a dévoilé son plan dans un discours dans le sud de l'Angleterre.
Toute personne entrant illégalement au Royaume-Uni pourra désormais être relocalisée au Rwanda. C'est un pays mondialement reconnu pour son bilan d'accueil et d'intégration des migrants. Le pays pourra accueillir des dizaines de milliers de personnes dans les années à venir.
Une mesure avant tout dissuasive, dit le gouvernement, alors que les traversées clandestines ont triplé en un an selon le ministère de l'Intérieur du pays. Mais le coût du projet est lourd, 144 millions d'euros dans un premier temps. Amnesty International s'insurge par la voix de Philippe Hensmans, son directeur en Belgique.
C'est une catastrophe humanitaire. On n'a aucune garantie sur le sort qui nous sera réservé. C'est un pays qui n'est déjà pas dans une situation idéale. Nous demandons que ce projet soit révisé, que tout se déroule dans le respect du droit international.
Pour ses détracteurs, cette annonce est surtout l'occasion de détourner l'attention des déboires de Boris Johnson dans le Partygate. Une première amende vient d'ailleurs d'être réglée par le gouvernement pour avoir organisé des fêtes pendant les confinements.
Johan Tritz.
La campagne pour la présidentielle, Marine Le Pen veut réunir un front anti-Emmanuel Macron.
Meeting à Avignon devant 4000 personnes pour la candidate du Rassemblement National, 50 minutes de discours et un appel aux électeurs de droite comme de gauche à faire barrage à Emmanuel Macron le 24 avril. À Paris, la Sorbonne restera fermée jusque mardi prochain. Une centaine d'étudiants ont occupé les locaux de la faculté pour dénoncer le résultat du premier tour. Quelques incidents avec les forces de l'ordre. Manifestations aussi à Sciences Po et dans plusieurs villes de province.
C'est l'un des 12 travaux d'Emmanuel Macron. Il en avait pratiquement fait une affaire personnelle. 3 ans, jour pour jour, après l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, le président vient vérifier l'avancée des travaux.
Et pour l'instant, ils avancent à leur rythme. L'intérieur de la cathédrale est aujourd'hui entièrement nettoyé et dépoussiéré. La reconstruction proprement dite a commencé. Elle se fait pas à pas. Visite présidentielle symbolique à plus d'un titre. D'abord parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Ça n'aurait échappé à personne. Ensuite parce que le week-end de Pâques approche, Jacques Serret.
Oui, c'est le président et non le candidat qui s'apprête à entrer cet après-midi dans la cathédrale en travaux. Ce sont les services de l'Élysée et non son équipe de campagne qui organise cette visite. Mais à 9 jours du second tour, les deux costumes d'Emmanuel Macron semblent indissociables. Dans ce déplacement en plein entre-deux-tours et chargé en symboles, un signal très clair envoyé à l'électorat catholique le jour du Vendredi Saint, à la veille du week-end pascal. Il faut dire que le vote des catholiques est loin de laisser indifférent la Macronie. Une enquête de l'IFOP pour le journal La Croix indique que les catholiques qui se disent pratiquants réguliers ont un peu moins voté pour le président sortant que la moyenne nationale, 25% au lieu des près de 28% accordés à Emmanuel Macron. En revanche, 16% d'entre eux ont glissé un bulletin Éric Zemmour, une proportion bien plus élevée que la moyenne nationale. Une partie de ses électeurs est donc aujourd'hui sans candidat et pas spécialement sujet à voter Marine Le Pen, car les catholiques qui vont régulièrement à la messe ont moins voté pour la candidate du RN que la moyenne des Français. Emmanuel Macron, en faisant ce clin d'œil, espère peut-être les convaincre de ne pas s'abstenir.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Anissa Haddadi en parlait dans sa météo tout à l'heure. Le week-end de Pâques s'annonce ensoleillé et très doux. Beaucoup de monde attendu également sur les routes. Journée classée rouge au départ de toutes les grandes agglomérations dès midi.
Un week-end de Pâques que le pape François s'apprête à célébrer à Rome sur fond de polémique autour de la guerre en Ukraine.
Le traditionnel chemin de croix terminera sa marche au Colisée, mais la nationalité des porteurs provoque la colère du gouvernement ukrainien. Le pape François a eu l'idée d'associer une Russe et une Ukrainienne pour envoyer un message de paix. C'est plutôt raté, Antonino Gallofaro.
Oui, on parle en particulier de l'une des stations du chemin de croix, l'un de ces tableaux vivants, disons, qui illustre la passion du Christ. Lors de chacune de ces étapes, cette année, une famille est appelée à témoigner. Eh bien, le Vatican a confié l'une de ces stations à 2 familles, l'une ukrainienne et l'autre russe. Mais l'idée ne plaît pas du tout à l'Ukraine. Elle n'apprécie pas que les deux parties soient mises sur le même plan. Elle l'a fait savoir discrètement au Vatican par son ambassadeur près le Saint-Siège. Mais la protestation la plus directe, sans filtre diplomatique, elle arrive de la plus haute autorité catholique du pays. Pour l'archevêque de Kiev, Sviatoslav Shevchuk, la proposition du Vatican est inopportune et ambiguë car elle ne tient pas compte du contexte d'agression militaire russe contre l'Ukraine. Du côté du pape, pour l'instant, silence. Le Saint-Siège a voulu unir ensemble pour la paix une infirmière ukrainienne, une étudiante russe et leur famille, toutes vivant à Rome. Mais malgré la colère des Ukrainiens, elles témoigneront, comme prévu, ce soir au Colisée lors de la 13e station, celle où meurt le Christ après avoir demandé à Dieu « Pourquoi m'as-tu abandonné ?»
Antonino Gallofaro, correspondant d'Europe 1 à Rome. Le football, il y aura un club français en demi-finale d'une Coupe d'Europe. Marseille a battu le PAOK Salonique 1-0 en quart de finale de la Ligue Europa Conférence. Les Marseillais retrouveront Feyenoord au prochain tour. Élimination de Lyon en revanche, sévèrement battu 3-0 sur sa pelouse par les Anglais de West Ham.
Merci beaucoup Christophe Lamar pour toutes ces informations. On passe aux courses à présent. Les pronostics du Quintet avec l'éternel Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est en nocturne à Vincennes que se disputera ce quintet, un mini quintet plus, puisqu'il réunira seulement 13 partants sur la distance de 2100 mètres, avec trois favoris solides. Hôtel Mystique, le numéro 10, qui en dépit d'un numéro en seconde ligne derrière l'autostart, le mode de départ de ce quintet, devrait pouvoir revenir sur sa qualité, disputer la victoire. Harit Sassi, le numéro 3, une première chance ici, jugé sur ce qu'il a réalisé de mieux, et Hamilton Duham, le numéro 8, irréprochable depuis le début de l'année, n'ayant jamais terminé plus loin que 3e. Ensuite, je vous recommande les numéros 12, Heart of Glass, facile lauréat de ses deux dernières courses à Cagnes-sur-Mer, puis à Marseille-Borély, 1, Hardy Crown, peu véloce au départ, mais qui sera avantagé par l'autostart, et 5, Affiez-nous, à ne surtout pas condamner sur ses deux dernières contre-performances. Enfin, les numéros 2, Horus de Romaz, et 9, Hello de Jagui, compléteront ma sélection. Mon pronostic, 10, 3, 8, 12, As, 5, 2 et 9.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontés à travers les archives d'Europe 1.
Il y a 110 ans, sombrait le Titanic le 15 avril 1912. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Amblin.
Alors Laure, à travers les archives d'Europe 1, on va revenir avec vous sur l'année 1987, au moment où ont lieu les premières plongées dans l'épave du Titanic.
Oui, l'épave se trouve à 3800 mètres au fond de la mer, à cette profondeur impossible pour les chercheurs de descendre avec palmes et bouteilles d'oxygène. Ils se déplacent à bord d'un petit vaisseau et voici leurs premiers échanges avec les équipes à la surface lorsqu'ils découvrent l'épave. Tendez l'oreille.
Nous sommes promenés le long d'une échelle et sur les différents ponts.
Que comptez-vous faire actuellement ? À vous.
Nous allons nous mettre dans l'axe de l'épave et photographier...
Ces voix que vous entendez sont à 3800 mètres de fond sur le Titanic. Les plongeurs sont montés par une échelle et se sont promenés sur le pont du Titanic. Première fois aussi que l'on voit ce bateau coupé en deux. L'avant s'est enfoncé d'un côté, l'arrière de l'autre et 600 mètres les séparent. L'épave n'est plus qu'un tas de ferraille, raconte alors le commandant Kerenfleck.
Les vertes et les glauques et les rouillées. Extrêmement rouillé, vous avez des coulures de rouille, il y avait plein de tôles qui sont effroyablement entrelacées, tordues, ça fait peur.
Et autre moment saisissant, alors les objets du Titanic sortent progressivement de l'eau.
Oui, 5500 objets au total seront remontés du Titanic, des lettres, des livres encore miraculeusement lisibles, les lustres pendent dans l'eau. Yves Potier conduit le robot qui circule près de l'épave et il raconte en 1993.
Le grand escalier a disparu puisque lui était entièrement en bois et à chaque étage on a pu voir des lustres qui se sont décrochés du plafond et qui pendent. Et là on s'imagine très facilement dans le bateau, enfin avant le naufrage, et c'est là où c'était mouvant.
Dans les archives d'Europe 1, on a aussi retrouvé ce témoignage qui date de 1959. Une rescapée du Titanic a réussi à monter dans un canot de sauvetage la nuit du naufrage.
L'officier qui était dans le bateau a dit « Ramez fort, vous n'avez que 25 minutes pour sauver votre vie ». Nous nous sommes éloignés et moi je regardais toujours le bateau, n'est-ce pas ? Les lumières étaient éclairées encore. Nous étions éloignés peut-être un demi-kilomètre lorsque les lumières s'éteignent et le bateau s'enfonçait. Des cris que j'ai encore lorsque j'y pense. Il me semble que je les entends.
Témoignage très fort de cette rescapée du Titanic. Les objets du Titanic ont été sortis de l'eau progressivement. Les derniers objets ont été remontés en 2004.
Merci beaucoup Laure d'Autriche et à lundi pour un nouveau jour où Dans un instant sur Europe 1, le légendaire guerrier samouraï s'expose au musée Guimet.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
Excellent début de matinée sur Europe 1. Il est 5h43. Il est l'un des emblèmes du Japon. Le Musée national des arts asiatiques à Paris consacre en ce moment une exposition au personnage du samouraï et à l'imaginaire qui s'est construit autour de ce guerrier légendaire. On en parle tout de suite, Omblin, avec la présidente du musée Guimet.
Bonjour Sophie Macariou.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour nous guider au cœur de cette exposition baptisée « L'arc et le sabre imaginaire guerrier du Japon » dont vous êtes également la commissaire d'exposition. Vous nous entraînez donc dans l'imaginaire qui gravite autour des samouraïs et leur histoire. Qu'est-ce qu'on y voit dans cette expo?
Alors, on y voit surtout, en fait, beaucoup d'images de samouraïs, donc un très beau choix d'estampes. Alors, il faut dire qu'il y a quelques années, le musée avait consacré une exposition aux seigneurs de la guerre et présentait des armures. Alors là, le but n'est pas tout à fait le même. Bien sûr, on va retrouver des casques assez extraordinaires, des casques spectaculaires, comme on dit, parfois très effrayants. On va trouver des armes, des objets très raffinés liés aux samouraïs. Mais surtout, on retrouve dans cette exposition essentiellement des représentations de samouraïs, parce qu'évidemment, l'objet, c'est bien de parler de cet imaginaire guerrier qui s'est développé, je dirais, à la fois durant toute la période d'Edo, donc une période qui commence au XVIIe siècle, et à un moment qui met fin aux guerres féodales au Japon, et qui s'achève au milieu du XIXe siècle, au moment où le Japon va s'ouvrir à l'Occident. Et curieusement, après cette période, alors que les samouraïs ont disparu, c'est peut-être là que va se développer le plus cette image, cet imaginaire du guerrier comme quelque chose d'un peu rêvé, vous voyez, parce qu'il est perdu. On a remisé en quelque sorte, les accessoires du guerrier au placard.
Alors on a à l'esprit l'image de ce combattant avec son masque, son casque, vous l'évoquiez, une armure et surtout ce sabre, hein, ce katana à la main. Mais dites-nous, qui est-il vraiment ce samouraï ?
Alors, en fait, derrière le mot presque un peu fourre-tout, il y a plusieurs classes, évidemment, de gens. Il y a d'abord des aristocrates qui sont des sortes de grands féodaux, qui ont des fiefs importants, qui entretiennent une maisonnée dans laquelle il y a beaucoup de guerriers. Et évidemment, qui mènent grand train, un train un petit peu ruineux. D'ailleurs, ils résident tantôt à Edo, la future Tokyo. Tantôt dans leur fief, et quand ils regagnent leur fief, pour faire ce qu'on appelle la rotation de service, une fois par an, ils sont obligés d'emmener tout leur monde en grand appareil, avec les parades assez extraordinaires, tandis qu'ils laissent leur famille, en fait, dans la capitale, sous bonne garde. Donc, ce qui explique qu'en fait, on ne se bat pas dans ce Japon d'Edo pendant 250 ans, parce qu'on a un peu, finalement, laissé sa famille en otage, vous voyez. Et pendant qu'on ne se bat pas, on s'entraîne au maniement des armes. Et c'est le moment aussi où se déploient les armures et se fabriquent les armures les plus extraordinaires, les plus luxueuses, des katanas, effectivement, ces sabres extrêmement impressionnants, aux lames très affûtées, mais surtout avec des décors absolument splendides. Donc, il y a une sorte d'exhibition, si vous voulez, du luxe et de la force, alors que cette force, en fait, elle n'est pas convoquée au combat, puisque pendant 250 ans, le Japon est en paix. C'est tout le paradoxe de cette période d'Edo assez extraordinaire. Et c'est probablement ce qui va développer cette espèce d'imaginaire. Et puis, c'est aussi l'exaltation de ce qu'on appelle le Bushido, la voie du guerrier, avec un code d'honneur, etc. Et on aborde notamment cette question dans l'exposition à travers le déploiement d'une série d'estampes splendides d'Hiroshige, qui raconte l'histoire de ce qu'on appelle les 47 Ronin, 47 valeureux guerriers qui vont venger l'honneur de leur maître qui a été obligé de se faire seppuku, donc se faire harakiri si vous voulez. Voilà, quelque chose qui va beaucoup animer, par exemple, le théâtre de Kabuki. Il y a beaucoup d'histoires autour des samouraïs dans le théâtre de Kabuki. Donc, c'est pour ça que c'est un objet, d'imaginaire si représenté dans l'estampe, le samouraï.
Alors, vous l'avez précisé, hein, il est entré dans la légende une fois qu'il a été désarmé, quand le Japon s'est ouvert au monde. Vous faites référence aux 47 Ronin, alors je le prononce à la française, dont le film américain s'est emparé cette histoire. Comment expliquer la popularité de ce guerrier japonais dans la culture occidentale ?
Alors, je crois que, si vous voulez, c'est une sorte de personnage qui porte d'une certaine façon toutes les qualités, j'irais, d'un personnage de tragédie à l'antique, vous voyez. Alors, moi, je dirais qu'il y a deux catégories, pour moi, qu'on peut mettre en relation dans l'imaginaire, je dirais. Le western et, en fait, le film de samouraï. Ça paraît un peu éloigné, mais dans les deux cas, on va s'identifier, en fait, à un personnage qui est porteur de valeurs fortes, d'honneur, de fidélité, de sacrifice. Alors, c'est soit du côté, évidemment, du Japon, évidemment, celui qui va défendre, par exemple, l'honneur de son maître, c'est les 47 Ronins, comme vous vous rappelez, ils vont aller jusqu'au sacrifice de leur vie pour venger l'honneur de leur maître. Soit finalement, suivant les réalisateurs américains, les Indiens qui sont les bons personnages ou au contraire ceux qui vont se défendre contre les Indiens. Je pense que c'est en fait des figures, si vous voulez, qui vont d'une certaine façon cristalliser, voilà, de façon très compréhensible pour le grand public, des valeurs qui nous exaltent, voilà, vous voyez, qui nous emmènent et qui nous entraînent plus haut, qui sont nobles. Et en fait, ce sont des figures de noblesse humaine. Et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été à ce point investis, c'est-à-dire que c'est des personnages qui nous font rêver, simplement.
Venez percer le mystère du samouraï au musée Guimet, à Paris, ce personnage universel, finalement. Merci beaucoup, Sophie Macario, d'avoir répondu à nos questions sur Europe 1. Vous êtes la présidente du Musée national des arts asiatiques, commissaire de l'exposition « L'arc et le sabre, imaginaire guerrier du Japon » présenté jusqu'au 29 août. Bonne journée.
Merci.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce vendredi à 6h10 avec Alban Le Prince.
Macron et Le Pen à la recherche des électeurs insoumis et abstentionnistes. La candidate du Rassemblement National a organisé un meeting à Avignon. Hier, le président candidat était au Havre. Dans ces deux villes, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête au premier tour avec plus de 30% des voix. Mécontents de l'affiche du second tour, certains étudiants qui occupaient la Sorbonne ont quitté les lieux. D'autres sont restés pour alerter sur les questions écologiques et sociale, mobilisation qui a également gagné le campus de Sciences Po Paris. A noter que le site de Sorbonne Nouvelle est fermé jusqu'à la fin des enseignements du second semestre. Une étudiante sur quatre de l'école polytechnique dit avoir été victime d'agressions sexuelles depuis le début de sa scolarité, selon un questionnaire réalisé en interne. Conséquence, le parquet d'Evry ouvre une enquête pour viol et agressions sexuelles.
L'actualité se poursuit en musique.
Et pour nous enchanter, on accueille tout de suite Stéphanie Loire. Bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Amblin et bonjour Julien.
Bonjour Stéphanie, ce matin c'est le nouvel album d'un artiste français qui célèbre ses 10 ans de carrière, Ben L'Oncle Soul.
On a découvert Ben L'Oncle Soul avec son premier album éponyme publié il y a 10 ans déjà. Un album 3x disque de platine ancré dans la culture soul des années 60, porté notamment, rappelez-vous, par ce titre, Soul Man. Mais cet artiste originaire de Tours n'est pas que l'homme derrière ce tube. D'ailleurs, ce tube qui lui a valu 4 nominations et un prix aux Victoires de la Musique. En 2020, il nous offrait avec Addicted to You, un album qui alliait cette fois le soul au jazz et aux sonorités R&B. Every time I'm falling, you're the one I'm calling, and everywhere I'm going. Aujourd'hui, il revient avec un projet gorgé de soleil jamaïcain, un cinquième album qui porte le nom d'un fruit tropical Red Mango. Il s'est associé à des musiciens californiens, le groupe Monophonix, pour vous donner une idée de la cohérence de cette collaboration. Écoutez comment ça sonne Monophonix. Ces musiciens, Ben L'Oncle Soul revisite dans cet album des classiques pop et soul, mais en version reggae cette fois. Parmi les titres réarrangés, l'hymne à la paix publié par John Lennon en 1971, Imagine, d'ailleurs que vous allez découvrir dans quelques instants sur Europe 1. Au milieu de ces 9 titres, une reprise reggae du tube Stay de Rihanna. l'instar d'autres artistes comme Cat Power, Ben l'Oncle Soul aime s'amuser à tordre les notes et les arrangements des chansons en y apportant sa patte et son éclairage. Rappelez-vous, en 2010, sa reprise du titre Seven Nation Army des White Stripes en version soul millésimée, soutenue par sa voix suave, avait déjà rencontré un vif succès. I'm gonna find them off. A Seven Nation Army couldn't know me back. They're gonna rip it off. Et on retrouvera Ben l'Oncle Soul en tournée dans toute la France. Il sera notamment le 29 avril à Strasbourg, le 12 mai à Muret et le 16 mai au New Morning à Paris.
Merci beaucoup Stéphanie Loire, et comme premier un extrait de ce nouvel album de Ben l'Oncle Soul, sa reprise d'Imagine de John Lennon.
Imagine, version reggae par Ben l'Oncle Soul, l'un des 9 titres à découvrir aujourd'hui sur son nouvel album Red Mango.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57, dans un instant la météo, le journal et peut-être un tournant dans la guerre en Ukraine.
Oui, avec la chute imminente de Mariupol, le verrou stratégique sur la mer d'Azov. Après plusieurs semaines de siège et de bombardements terribles, 90% de la ville est détruite et des dizaines de milliers de civils auraient été tués selon les autorités ukrainiennes. Kiev assure même que des armes chimiques ont été utilisées par les Russes dans la cité portuaire. Un potentiel nouveau crime de guerre, voire le signe d'un génocide en cours. C'est en tout cas le terme qu'a employé mardi Joe Biden, un terme que refuse de prendre à son compte Emmanuel Macron, car, dit-il, reconnaître ce crime entraînerait un devoir d'assistance et ferait de la France un co-belligérant. A-t-il raison ? On va voir cela dans une dizaine de minutes avec notre invité, le géopolitologue et spécialiste de la Russie, Cyril Brett. Et puis juste après, on blinde votre partition.
The Police, le début de la fin en 1981. « La partition du quatrième album Ghost in the Machine qui ne ressemble en rien au précédent.
En revanche, cette météo va ressembler aux précédentes puisque nous avons un avant-goût d'été.
Et ma chère Lisa, absolument. Dit. Aujourd'hui, ça sent bon l'été. Et ce n'est que le début de ce week-end de Pascal très estival. Alors ce matin, nous avons quand même quelques brouillards. On a des nuages bas aussi hein, qui se situent surtout en bord de mer, le long des côtes de la Manche, en Bretagne, sur les Hauts-de-France, en Auvergne, sur les Pyrénées-Atlantiques. On en a aussi un petit peu en région parisienne jusqu'en Champagne. Tiens, dites-nous hein, si ça se passe bien sur les routes pour vous. Parce que par endroit, ça peut être compliqué. On lit vos messages sur Twitter, sur Facebook, sur la page Europe Matin. Alors, ces grisailles, elles vont très vite se dissiper. Ça, c'est la bonne nouvelle pour laisser place à un beau soleil pour tout le monde. On a quelques cumulus de beau temps qui traversent de temps en temps le pays, mais rien qui viendra gâcher cette magnifique journée qui sera, je vous le disais, la bande-annonce donc de ce week-end Pascal magnifique. Lunettes de soleil. Laissez pas trop les œufs longtemps dans le jardin, ils vont fondre. 5 degrés à Rouen ce matin, 7 à Guéret, 10 degrés à Paris et Saint-Rémy-de-Provence, 16 à Perpignan, ça c'est pour le matin, l'après-midi 19 à Caen, 21 à Nice, 22 à Paris, 27 à Nîmes, ça s'envole.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Très bon début de journée à tous, nous sommes le vendredi 15 avril. Il est 6h. C'est une soirée dont on se souvient probablement tous, l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a 3 ans, jour pour jour. Réouverture prévue en 2024 après un chantier colossal. Reportage dans le département de l'Oise qui apporte sa pierre à l'édifice. Salah Abdeslam face aux contradictions de son récit. Au procès du 13 novembre, les parties civiles pointent des incohérences. L'accusé défend sa vérité, récit de l'audience à suivre. Et puis bientôt un train qui roule aussi sur la route. C'est le nouveau projet de la SNCF pour revitaliser les petites lignes de TER.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et ce journal vous est présenté par Romain Oquet. Bonjour Romain.
Bonjour à tous. Sera-t-on un jour ce qui a provoqué l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris il y a 3 ans, le 15 avril 2019, le monument était dévoré par le feu sous nos yeux pétrifiés, presque incrédules. Aucune certitude à ce jour sur l'origine des flammes.
Et si le monument est sauvé, le chantier reste immense. Nettoyer la poussière de plomb, refaire la charpente et reconstruire les voûtes.
Oui, 15% ont été endommagées, voire même détruites. L'extraction des pierres vient d'ailleurs de commencer à la Croix près de Compiègne. La carrière doit fournir la moitié des pierres nécessaires aux travaux. Visite du chantier dans l'Oise avec Océane Théard.
C'est un paysage lunaire, une carrière de pierres calcaires creusées au milieu des champs humides. Une lame de 3 mètres gronde, découpe des blocs de pierre de 1 à 3 mètres, le tout commandé à distance par Benoît Horchol.
C'est comme une grosse tronçonneuse si on veut, comme pour le bois, mais spécialisée dans la pierre. Nous on recoupe donc perpendiculairement pour délimiter les blocs.
640 mètres cubes de pierre pour l'histoire, une pierre assez résistante pour former les nouvelles voûtes de Notre-Dame.
On n'en fait pas 50 dans une vie des chantiers comme ça. Je pense que je m'en souviendrai jusqu'à la fin de mes jours. Bien entendu.
Et quelques kilomètres plus loin, la pierre est redécoupée et nettoyée à l'usine avec le même soin par le petit frère Horchol.
C'est un chantier qui, je pense, qui marque une vie, c'est un chantier exceptionnel. C'est un métier qu'on partage du coup depuis mon grand-père avec mon père. Pouvoir travailler ici avec eux maintenant, c'est aussi un plaisir et c'est une vraie joie.
Les blocs les plus réguliers iront ensuite jusqu'à Paris et seront hissés sur des échafaudages à plus de 100 mètres de haut pour que s'élèvent à nouveau les voûtes de Notre-Dame.
Le reportage d'Océane Théard à Bonneuil en Valois dans l'Oise. Et c'est à Paris, dans la cathédrale Notre-Dame, qu'est attendu Emmanuel Macron cet après-midi. Le chef de l'État fera le point sur l'avancée du chantier.
Une journée qui marque une pause dans la campagne d'Emmanuel Macron.
À 9 jours du second tour, le candidat peut compter sur le soutien de François Hollande. C'est le vote Macron qui permet que Madame Le Pen ne gagne pas, a déclaré l'ancien chef de l'État, invité sur TF1 hier soir.
Salah Abdeslam face à ses contradictions au procès du 13 novembre.
Son dernier interrogatoire se poursuit aujourd'hui. Hier, il a fait face aux avocats des victimes et au parquet qui partageaient les mêmes doutes à propos de son récit de la soirée. Sa vérité, comme dit Abdeslam, il n'y croit pas, Gladys Lafitte.
Ah oui, et notamment le fait qu'il aurait été envoyé tout seul en mission suicide dans un café du 18e arrondissement, alors que les combattants agissent plutôt à deux. Et puis lors de son arrestation, il avait dit avoir pris le métro, qui était une cible envisagée par la cellule terroriste. Il y a donc là une incohérence. C'est la vérité, ça ne change rien que je me fasse exploser dans un métro ou dans un café, a assuré Salah Abdeslam, beaucoup plus fermé que la veille. L'avocat général s'est montré sceptique. Je note que c'est incompatible avec la vérité, a-t-il lâché. Si cette vérité vérité ne vous convient pas, je m'en fiche. Si je parle, c'est aussi pour moi, a martelé l'accusé, parfois excédé face aux nombreuses questions pressantes. Il s'est tout de même apaisé et s'est même adressé aux victimes. Ne laissez pas la rancœur vous dévorer de l'intérieur. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de pardonner et d'avancer, de me donner la chance de retrouver ma famille un jour. Jamais, a scandé une partie civile qui, comme de nombreux autres, ont paru en colère face aux paroles de Salah Abdeslam.
Gladys Laffitte.
C'est la plus lourde perte matérielle pour l'armée russe depuis le début de la guerre en Ukraine. Son croiseur Moskva, navire amiral, a coulé, endommagé par un incendie selon Moscou.
Kiev, de son côté, affirme que c'est un tir de missile ukrainien qui a neutralisé le bâtiment. Un coup dur pour la Russie, estime le Pentagone américain, qui n'exclut pas l'usage d'une arme nucléaire en représailles.
Énième conversation téléphonique hier entre le président ukrainien et Emmanuel Macron, qui a rappelé la solidarité de la France.
25 000 réfugiés sont hébergés chez nous, grâce notamment à des logements sociaux, un vrai chez-soi pour se projeter vers l'avenir. Illustration à ample pluie dans le Rhône avec notre correspondant Jean-Luc Boujon.
Depuis quelques jours est l'arrivée d'un piano. Amalia revit, cette professeure de solfège originaire de Kiev, est arrivée il y a 3 semaines à Amplepuis. Après des jours d'hébergement en gymnase, elle a, avec ses 2 enfants et son mari, intégré un T5 dans un immeuble HLM, le bonheur.
Cet accueil, cette tranquillité, ce confort, c'est vraiment très précieux pour nous. Ici, on a des chambres pour tout le monde, un canapé, une table, de quoi faire la cuisine. Nous avons beaucoup de chance.
L'appartement, qui date des années 70, a été rénové et meublé. Il était vacant depuis plus de 3 mois, explique Xavier Englebert, directeur de l'OPAC du Rhône.
Nous ne prenons de logements à personne. Il s'agit bien de logements qui sont inoccupés. Donc c'était une opportunité d'aider les gens.
Un véritable appartement, c'est la meilleure solution pour tout le monde, explique Christophe Perrin, président de l'association Habitat Humanisme, qui aide les réfugiés à se loger.
Accueillir chez soi une famille, il faut reconnaître que pour la famille accueillante, au bout de quelques semaines, c'est très lourd. Et puis, ça n'est pas souhaitable pour la famille accueillie parce qu'elle n'est pas autonome et elle n'est pas en chemin pour son autonomisation dans un contexte comme ça.
C'est pour cela que très vite, le couple ukrainien qui se projette en France pour les mois à venir, va chercher du travail et assumera seul la charge du loyer, pour l'instant payé par l'association. Amplepuis, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
43 milliards de dollars, c'est la coquette somme que serait prêt à débourser Elon Musk pour s'offrir Twitter.
Son idée en faire la plateforme de la liberté d'expression dans le monde. La semaine dernière, le patron de Tesla et de SpaceX était devenu le premier actionnaire du petit oiseau bleu avec environ 9% des parts.
6h05 sur Europe 1. Et vous, vous êtes dans quelle équipe ce matin? Alors, il y a ceux qui retourneront bien sagement au travail lundi, comme vous et moi, Julien, je crois.
Oui, absolument.
Ou alors ceux qui sont les chanceux en vacances ou en week-end prolongé aujourd'hui.
Et vu la météo, Anissa nous en parlait d'ailleurs juste avant ce journal, vous auriez tort de vous en priver. Alors plutôt train ou voiture, eh bien justement la SNCF propose les deux en un. Cela s'appelle Flexi. C'est l'une des 3 expérimentations lancées par la compagnie ferroviaire pour attirer plus de voyageurs. Aurélien Fleureau.
Drézy, Flexi et TLI, ce sont les noms des trains régionaux du futur. Plusieurs modèles d'un nouveau genre, plus léger, plus modulable pour accueillir parfois moins de passagers, mais plus de vélos ou de marchandises. Carole Desnaux, directrice innovation du groupe SNCF.
Aujourd'hui, un train TER fait 220 places. Là, avec la gamme de trains régionaux du futur, on sera entre 100 et 30 places. L'objectif, c'est vraiment de coller aux besoins des régions et de pouvoir adapter des trains peut-être plus petits, mais d'avoir une fréquence plus importante pour un service meilleur rendu aux clients.
Drézy, ce seront de mini TER 100% électriques avec 150 km d'autonomie, 80 places, façon navette pour les trajets du quotidien, lancement en 2027. Et puis Flexi, ce sera un véhicule autonome, 9 places, lancé en 2024 avec la particularité de pouvoir rouler à la fois sur les rails et sur la route pour répondre aux besoins du dernier kilomètre autour d'une gare.
Aurélien Fleureau, et si vous optez quand même pour la voiture pour partir aujourd'hui, tardez pas trop quand même, ils ont chuté à voie rouge sur toute la France.
Merci beaucoup pour toutes ces informations, Romain Okey.
6h07, les sports. Le journal des sports avec vous, Martin Lange, et il y aura un club français en demi-finale de la Coupe d'Europe de foot.
Oui, Marseille a été imposé hier à Thessalonique, victoire 1-0 face au PAOK. Dans une ambiance de feu, les Olympiens ont pu compter sur un très grand Steve Mandanda et sur un but de leur meneur de jeu, Dimitri Payet, forcément satisfait.
Oui, l'objectif principal c'était ça, c'était de venir ici pour se qualifier, pour s'offrir une demi-finale. Donc l'objectif a été atteint ce soir.
Dimitri Payet au micro de W9. C'est la 7e fois que l'OM disputera une demi-finale européenne. La première en Ligue Europa Conférence, compétition créée cette année. Ça sera face au Feyenoord Rotterdam. En revanche, c'est fini pour Lyon en Europa League. Les Lyonnais ont été balayés à domicile par West Ham. Défaite 3-0 et beaucoup de regrets pour l'attaquant Karl Toko Ekambi.
Forcément déçu. Parce qu'on avait à cœur de se qualifier à la maison. Malheureusement, on n'a pas su le faire. C'est une compétition
Élimination directe. On est éliminé, c'est trop tard maintenant.
Toko Ekambi au micro de Maxime Cheuch. Ce soir, retour de la Ligue 1. Rennes 3e accueille le 6e Monaco.
On passe au cyclisme et J-2 avant l'enfer du Nord.
Oui, Paris-Roubaix, c'est dimanche. La reine des classiques retrouve son calendrier habituel après deux années perturbées par le Covid. Pas de pluie, pas de boue attendue sur le Nord dimanche, mais les favoris seront au rendez-vous. Thierry Gouvenou, directeur de la course.
Un Van Der Poel sera présent, c'est évident. Il y a là le petit point d'interrogation sur Van Aert, mais on doit aussi avoir un espoir avec nos coureurs français, avec des coureurs comme Laporte, Sénéchal et voire Madouas.
Thierry Gouvenou lors de la reconnaissance du parcours interrogé par Lionel Gougelot.
Dans le reste de l'actualité, Martin.
Du tennis chez les femmes d'abord avec les barrages de la Billie Jean King Cup, c'est le nouveau nom de la Fed Cup. Les Bleus affrontent l'Italie pour une place en phase finale, début des simples à 14h. Puis chez les hommes, place au quart de finale au Masters de Monte Carlo. On suivra notamment Schwartzmann, Tsitsipas ou encore Sinner, Zverev. Enfin, un mot de handball avec la démonstration des Bleus hier. Victoire 44-33 face au vice-champion d'Europe espagnol.
Merci beaucoup, Martin Lange. C'était le journal des sports.
Restez avec nous dans un instant. Peut-on parler de génocide en Ukraine? On va poser la question au géopolitologue et spécialiste de la Russie, Cyril Brett. A tout de suite.
5h, 6h30, Europe Matin.
Bon début de matinée, il est 6h11 sur Europe 1. Votre invité, Julien, est philosophe, géopolitologue, maître de conférences à Sciences Po.
Et grand spécialiste de la Russie. Bonjour Cyril Brett.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous alors que la guerre en Ukraine est possiblement à un tournant. La ville de Mariupol, après de longues semaines de siège, est sur le point de tomber, ce qui constituerait là une victoire pour l'armée russe, l'une des premières depuis le début de ce conflit. On va y revenir. Mais avant cela, j'aimerais d'abord revenir avec vous sur l'information de la soirée, de la nuit. Ce croiseur russe qui a coulé, le Moskva, le navire amiral de la flotte de la mer Noire. Les Ukrainiens affirment l'avoir touché avec plusieurs missiles. Et si ça venait à se confirmer, ce serait un camouflet majeur pour la Russie, Cyril Brett ?
Oui, la perte de ce bâtiment, de ce croiseur Moskva pour l'armée russe serait symbolique, serait emblématique de la façon dont la guerre a été conçue, puis de la façon dont elle s'est déroulée. Le Moskva, c'est un très grand navire, c'est un croiseur élaboré pendant l'URSS qui sert de navire amiral, bon, pas très moderne, hein, pour la flotte de la mer Noire et qui symbolisait la volonté de la Russie de dominer les mers grâce notamment à l'annexion de la Crimée. Et si l'Ukraine, donc dans une relation du faible au fort, était parvenue à le détruire, ben ce serait pour les Ukrainiens le symbole de leur capacité à résister à la supériorité matérielle, technologique, quantitative des armées russes.
En tout cas, c'est un nouvel échec militaire hein, pour Vladimir Poutine qui pourrait être incité à recourir à une arme nucléaire tactique en Ukraine. Voilà ce que dit ce matin le chef de la CIA. Qu'en pensez-vous ?
J'en pense que la situation militaire russe est moins bonne que celle qui avait été prévue au début des hostilités fin février, et que le risque nucléaire tactique, donc l'emploi d'armes sur un terrain circonscrit, hein, pas pour empêcher la guerre ou pour la stopper complètement, mais pour emporter des victoires limitées, est d'autant plus possible que la Russie subit des pertes, n'obtient pas la victoire qu'elle espérait, est en train de s'enliser dans un conflit où elle subit des revers diplomatiques à l'extérieur et militaires sur le terrain, et que la tentation va être grande d'emporter un gain éclatant massif en utilisant cette arme. En revanche, si le risque est réel et doit être pris très sérieusement au sérieux, la Russie, qui est une puissance nucléaire ancienne, sait qu'elle s'exposera à d'autres rétorsions, à de nouvelles rétorsions, et qu'elle pourrait notamment faire entrer les Occidentaux en guerre avec elle, c'est l'emploi de l'arme nucléaire.
Est-ce que cette petite victoire dont vous parlez, ce pourrait être la chute de la ville de Mariupol, qui, semble-t-il, est imminente ?
Alors, Mariupol a un intérêt effectivement stratégique et ça pourrait donner à la Russie un premier gain, si vous voulez, très concret. Mariupol, ça lui permettrait de contrôler tout l'axe nord-sud du Donbass, du bassin du Don, et on sait qu'une grande bataille est en préparation pour le contrôle de cette région par la Russie. Et ça lui permettrait également d'emporter une victoire sur l'axe est-ouest. Mariupol, c'est l'étape essentielle pour établir une continuité entre la Fédération de Russie à l'Est et la Crimée, donc annexée illégalement par la Russie, à l'Ouest.
Et puis privatiser la mer d'Azov, hein, du coup ça privatiserait pour les Russes la mer d'Azov, avec l'objectif de pouvoir présenter cette victoire aux Russes lors des célébrations du 9 mai, hein, qui je crois sont extrêmement symboliques en Russie, ça correspond à la capitulation de l'Allemagne nazie.
Oui, c'est notre 8 mai, mais ce serait comme si c'était notre 8 mai à nous, doublé du 14 juillet. C'est une célébration essentielle aussi bien en Union soviétique qu'en Fédération de Russie contemporaine. C'est l'événement essentiel de la victoire contre le fascisme dans cette grande guerre patriotique. Et je reprends là les traductions des expressions russes et qui ont été célébrées notamment pour le 70e anniversaire en grande pompe à Vladimir Poutine pour marquer la fin de l'humiliation pour le pays, enfin la fin de ce qu'il estime être l'humiliation sur la scène internationale. C'est une date très importante. Mais vous avez raison, la Russie cherche désespérément actuellement une victoire rapide, une victoire symbolique et incontestable. Et il y a fort à parier qu'à l'approche de cette célébration, les violences, les opérations risquent de se multiplier pour pouvoir emporter cette victoire qui échappe pour le moment à la Russie.
Les violences risquent de se multiplier, dites-vous, Cyril Brecht. Et justement, il y a un mot qui est depuis quelques jours au cœur, notamment des échanges diplomatiques, c'est celui de génocide. C'est le terme qu'a utilisé le président américain Joe Biden mardi. Or, Emmanuel Macron, lui, refuse de l'employer tant que des juristes n'auront pas qualifié les faits, c'est ce qu'il dit. Est-ce qu'il a raison, Cyril Brecht ?
La question de savoir si c'est un génocide, un crime de guerre, des crimes de guerre, c'est pas une question pour un président ou c'est pas une question pour un premier ministre, c'est une question pour un procureur qui peut se prononcer avec un dossier monté par des enquêteurs qui ont fait des enquêtes très patientes. L'essentiel, c'est de savoir quoi. Est-ce que des victimes ont été est-ce que des civils ont été intentionnellement tués en masse par les forces russes? Désormais, le fait semble bien établi et il faut donc désormais mener une enquête pour qualifier.
Le génocide, c'est le côté systématique, méthodique.
Voilà, c'est faire disparaître un peuple.
Une culture.
Une culture. Bon, écoutez, est-ce que c'est vraiment le moment d'avoir entre alliés américains, ukrainiens et français un débat émotionnellement aussi chargé que cela? Ça me semble pas forcément approprié. L'important, c'est de soutenir l'Ukraine, aussi bien d'un point de vue humanitaire, et votre sujet précédent l'a montré, que politique, diplomatique et militaire, pour l'empêcher de disparaître comme État et pour évidemment l'empêcher de disparaître comme peuple. Le temps est moins là à l'enquête, malheureusement, qu'à la résistance.
Cyril Brecht, qu'en est-il des négociations? Tous les processus, quels qu'ils soient, semblent au point mort à l'heure actuelle.
Alors, les négociations de cessez-le-feu n'ont évidemment pas produit d'effet, sinon nous ne serions pas là à commenter des opérations militaires. En revanche, c'est les négociations ultérieures qui sont en préparation, car une fois les opérations de guerre achevées, il faudra bien qu'on se mette d'accord sur une armistice. Il faudra bien que les belligérants également trouvent un moyen de cohabiter après ces crimes de guerre, après ces opérations qui ont fait des victimes de part et d'autre, et surtout du côté ukrainien. Et donc c'est ce qui est en préparation. La guerre n'a pas de sens si elle n'est pas suivie d'une négociation qui permette de stabiliser, même dans une situation pas du tout satisfaisante pour les belligérants, et de stabiliser dans le droit la situation du terrain. Donc c'est ces négociations-là qui sont en préparation. Malheureusement, elles sont bien lentes à venir, mais c'est pas pour autant qu'elles sont inutiles, vaines, artificielles ou même illusoires. Elles arriveront, et c'est là où les Occidentaux et les Français en particulier auront un rôle à jouer pour garantir, une fois que les belligérants auront trouvé un terrain d'entente pour un traité
territoriale de ce qu'il reste à l'Ukraine.
Et c'est pour cette raison que enchaîner dans des accusations de génocide, de traiter les dirigeants russes.
Merci beaucoup, Cyril Brecht, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Je vous souhaite une excellente journée.
Europe Matin. Ombly
Ombline Roche et Julien Pierce.
À 6h20, les titres de l'actualité, Alban Le Prince.
Nous avons encore tous les images en tête, celles de Notre-Dame en feu, de sa flèche qui tombe et des passants comme figés devant la Seine. Cela fait déjà 3 ans aujourd'hui. Pour faire un point sur l'avancée du chantier, Emmanuel Macron se rendra à la cathédrale cet après-midi. La présidentielle, après Nicolas Sarkozy, c'est François Hollande qui a apporté son soutien à Emmanuel Macron hier soir. Invité aux 20h de TF1, l'ancien président lance cet appel au nom de la cohésion de la France et de son avenir européen. Le croiseur russe Moskva finit par couler, selon Moscou. C'est un coup dur pour l'armée russe, a réagi le Pentagone. Des revers militaires en Ukraine qui pourraient inciter Vladimir Poutine à recourir à l'arme nucléaire, tactique ou de faible puissance pour le chef de la CIA.
On termine la semaine avec votre partition, Omblin. 6 ans après être entré dans un studio près de Londres pour enregistrer un premier album, le groupe The Police annonce sa séparation en mars 1984.
Oui, voilà plusieurs mois, Julien, que ça ne va plus entre le chanteur Sting, le batteur Stewart Copeland et le guitariste Andy Summers, symbole du fossé qui est en train de se creuser entre les trois têtes pensantes de The Police. 7 chansons de rupture, un chant du cygne qui paradoxalement va devenir l'un des plus grands succès du groupe.
Every Breath You Take est extrait du 5e et dernier album de The Police, mais les liens entre les musiciens ont commencé à s'éroder bien plus tôt.
Effectivement, si on remonte le fil de l'histoire, si on arrive au moment où ils enregistrent leur album précédent, Ghost in the Machine, lors de l'été 1981. Il faut savoir que depuis ses débuts, le groupe passe sa vie en studio ou sur scène, avec une précision quasi mathématique. The Police sort un disque tous les ans. Pour celui-ci, les musiciens se rendent dans les Caraïbes, sur l'île de Montserrat, dans les studios Air de George Martin, le prestigieux producteur des Beatles.
Des tensions commencent à apparaître entre les membres de The Police, en particulier entre Sting et Stewart Copeland.
Oui, Sting endosse de plus en plus le rôle de meneur et ça fait grincer des dents. Il nourrit surtout de nouvelles ambitions lors de l'élaboration de ce nouveau disque. Quand vous écoutez les albums précédents, vous remarquez comme une continuité. Dans le choix des titres, d'abord Outlandos d'amour, Regatta de blanc et Zenyatta Mandata.
Et une continuité dans les compositions rock qui ont fait le succès du groupe de The Police.
Exactement, et Sting explique qu'ils étaient devenus obsédés par l'idée de faire des disques qui marchent, des disques conventionnels, mais cette fois, plus besoin d'asseoir leur popularité déjà bien acquise, autant se lancer dans de nouvelles expérimentations et se faire plaisir.
Ghost in the Machine est le premier album à porter un nom en anglais.
Emprunté au roman d'Arthur Kessler, Sting, qui clairement prend les choses en main, imagine une nouvelle orchestration des morceaux. Il impose l'ajout de synthé, de cuivre avec des saxophones et des corps superposés. Si Ghost in the Machine est à nouveau une réussite, le destin de The Police, lui, est déjà scellé.
We'll be right back.
Everything She Does Is Magic, extrait de l'album Ghost in the Machine, sorti en octobre 1981 et que vous retrouvez dès aujourd'hui dans la réédition d'un best-of de The Police en double vinyle. Cette compilation qui reprend les plus grands succès du groupe était indisponible depuis 1992.
Oui, ça fait quand même un petit bout de temps. Merci beaucoup, Ombline. Vous restez avec nous, la matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko. À tout de suite.